va lire ensemble Daniel 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héraut cria à haute voix « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. » Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement !» Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage, son visage se changea en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit aux conseillers et à ses conseillers, « Nous n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. » Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha à l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez !» Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait même pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui l'appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Alors, on a vu la dernière fois, sur le livre de Daniel, que Nebuchadnezzar a fait un pas vers le seul vrai Dieu, le Dieu unique, le Dieu des Juifs. Mais on peut dire que l'homme qui n'est pas passé par une vraie conversion à Dieu, il aura toujours tendance à relayer Dieu au second plan, à le mettre en arrière, et c'est ici le cas de notre roi de Babylone. Alors, Nebuchadnezzar a reçu une révélation au travers du songe qu'il a reçu dans le chapitre 2. Et d'ailleurs, il a dit « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. » Donc, ce songe révélé, là, il s'est dit « Mais oui, celui qui est au-dessus, c'est celui-là. Il n'y en a pas d'autre. » Mais après quelques semaines, quelques mois, quelques années, on ne sait pas combien sépare le deuxième du troisième chapitre, qu'est-ce qui lui reste de sa révélation ? Terminé. Verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées, large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Et comme cette histoire vient juste après le songe du chapitre 2, le songe qui concerne la statue que Nebuchadnezzar a vu dans son songe, et comme la tête d'or représente Nebuchadnezzar, et que la statue ici qu'il fait faire est une statue d'or, ça nous renvoie finalement inconsciemment à lui, et on pourrait penser, mais est-ce que finalement il a fait une représentation de lui-même, et c'est de lui-même qu'il cherchait l'adoration au travers de cette statue d'or qu'il a élevée? Mais en fait, il n'y a rien dans le texte qui nous laisse entendre que c'était lui-même qui était représenté. Et au verset 12, on lit que les serviteurs du roi vont dire de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, « Ils ne tiennent aucun compte de toi, roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Donc il est possible que cette statue d'or, en fait, était une représentation de son dieu Bel ou Marduk, le dieu de Babylone. Dans tous les cas, Nebuchadnezzar veut que tout le monde se prosterne devant autre chose que le Dieu véritable. Et tous les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges, tous les magistrats des provinces viennent pour la dédicace de la statue. Excusez-moi, parce qu'il y a les chaises qui tapent dessus. Et là, il va y avoir un effet de foule, un effet de masse, quelque chose de gigantesque. Ordre est donné de se prosterner dès qu'ils vont entendre les musiciens commencer à jouer de tous leurs instruments. Et d'un seul coup, les premières notes se font entendre. Et là, c'est un peu comme, pour parler actuel, flash mob, là. Vous avez peut-être vu, entendu parler de ça, là. Quelque chose de gigantesque et tout le monde se prosterne comme un seul homme devant la statue. Verset 7. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion et toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors dans les flash mobs, comme on dit aujourd'hui, modernes, vous pouvez voir, donc c'est sur les grandes places des villes, c'est des chorégraphies qui ont été préparées à l'avance et c'est des personnes qui sont consentantes. Elles veulent eh bien faire quelque chose ensemble. Mais ici, c'est une vague d'hommes et de femmes qui, voilà, ils le font, il faut le faire, hein, le roi, le souverain. À l'époque, on pourrait dire le souverain de la terre, hein, sur la terre, Nebuchadnezzar l'a ordonné. Mais l'homme est toujours libre. Il est libre de suivre le mouvement de la foule, libre de faire comme tout le monde, ou bien il est libre de se démarquer de la foule, de se démarquer et de refuser de se prosterner. Exode 20. On a tous entendu parler des 10 commandements, mais tout le monde ne l'a pas lu dans les Écritures. Si vous voulez prendre Exode 20, on va lire le début. Exode 20, chapitre 20, versets 1 à 6. Donc, par Moïse, il est dit: « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et ici, c'est une parole, c'est sans ambiguïté. Hein. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras aucune représentation quelconque. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne les serviras point. Et parfois, on peut prétexter, mais la Bible, elle est difficile à comprendre. Et c'est vrai, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Mais là, ce n'est pas difficile à comprendre. Là, un enfant peut le comprendre, hein. C'est pour ça aussi qu'on voit parfois les 10 commandements quelque part. Et curieusement, eh bien, y a un verset qui est escamoté, là. Il y en a un qui est subdivisé en deux. Vous n'en croyez pas vos oreilles, peut-être, mais c'est vrai. Hein. Dans certains catéchismes, parfois, il y a un verset qui est enlevé. C'est « Tu ne te feras point d'image taillée ». Et puis après, il y a un verset un peu plus loin. Je ne sais plus si c'est 6 ou 7 ou 8e commandement qui est, hop, subdivisé en deux. Et hop, on retombe sur les pattes. Hein. Et c'est de nouveau 10 commandements. Mais il n'y a aucune exception à la règle. Dans toute la Bible, hein, Dieu dit voilà la règle. Aucune représentation quelconque, tu ne te prosterneras point devant elle. Alors certains diraient, mais quand même, Marie, ce n'est pas pareil. Marie, c'est quand même la mère de Jésus, hein, le Fils de Dieu. Certains vont aller jusqu'à dire, c'est la mère de Dieu, chose que la Bible ne dit pas. Mais ici, il n'y a pas d'exception à la règle. Et nos juifs, donc Anania, Michaël et Azaria, connaissaient ce commandement. C'était quelque chose qui était gravé dans leur âme. Et ils connaissaient également ce qu'on appelle le Shema Israël. Peut-être que vous avez entendu ça, c'est cette parole prononcée par Moïse. Shema Israël, Yahvé, Elohenu, Yahvé, Erad. Et depuis que cette parole a été prononcée, tous les juifs l'ont récité, hein, l'ont apprise par cœur, ils l'ont entretenue dans leur âme. Cela dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Autrement dit, il n'y a pas d'autre Éternel, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre divinité, il n'y a pas d'autre déesse. Il n'y a qu'un seul Dieu, l'Éternel, le Dieu créateur. Et ce Dieu créateur ne veut pas que la créature se prosterne devant la représentation d'une autre créature. Et surtout pas, eh bien, ce qu'on peut voir aujourd'hui. C'est pourquoi, eh bien, la foule a mis ensemble le front à terre devant la statue d'or, et là, trois hommes sont restés debout, immobiles. Et ce n'est pas facile de faire le contraire du plus grand nombre. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous compare à des brebis. Hein. Si une brebis part à droite, une deuxième la suit, et puis hop, c'est tout le troupeau qui part à droite. Et on est comme ça. On suit le troupeau, on suit la vague, on suit la foule, hein. On suit la masse, aveuglément, bêtement. Et c'est difficile de faire différemment. Je voulais regarder un petit peu ce que c'est que ces flash mobs là. Hein. Donc, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est imaginez une place, les gens se promènent, etc. Il y a une foule qui se promène. Puis d'un seul coup, toute une partie de cette foule se met à faire une chorégraphie comme une seule personne. Et là, ben, les spectateurs là, qui ne sont pas prévus hein, dans le spectacle, se disent « Mais qu'est-ce qui se passe hein ?» Tous ces gens-là, ils n'avaient pas l'air de se connaître. Et soudain, ils sont tous en train de faire la même chose. Imaginez, j'ai vu ça, hein, 300 personnes qui se mettent à danser de la même manière. Et au milieu, il y avait un monsieur japonais avec son appareil photo. Et tout le monde était là en train de faire la même chose. Et lui était très, très mal à l'aise. Hein. Il voulait sortir de là. Pourquoi il voulait sortir de là? Parce que ben, tous les regards étaient sur lui. Tout le monde faisait pareil, sauf lui. Alors, par où je sors? Aidez-moi. Et c'est un peu comme ça, hein, vous savez, la foule fait quelque chose, le monde fait quelque chose, et vous, vous faites différemment. Ben, ça attire les regards sur vous. Hein. On vous regarde, et on se dit, mais pourquoi il ne fait pas pareil, lui, hein? Qu'est-ce qui se passe? Il a un problème? Et c'est plus facile de suivre le mouvement, de se fondre, hein, de disparaître, que surtout on n'ait pas les regards sur soi. Mais c'est le prix à payer aussi, hein, dans un monde qui ne voit pas, qui ne reconnaît pas l'Éternel. Le monde sans Dieu ne voit pas, ne reconnaît pas l'Éternel. Et Jésus l'a expliqué, il a dit à ses disciples, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Donc il y a le monde qui ne voit pas l'Esprit de Dieu, qui ne le connaît pas, et les enfants de Dieu qui le voient, qui le connaissent, qui ont fait cette expérience de la conversion. Il ne faut pas donc pas s'étonner si le monde, hein, qui ne voit pas l'Esprit de Dieu, qui ne le connaît pas, eh bien, prend une direction, une orientation, une inclinaison qui est contraire, opposée à la pensée de Dieu. Le monde ne peut pas marcher dans le sens que Dieu veut parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Il a une pensée qui est différente, il subit une influence qui est différente. C'est celle du péché, c'est celle du diable. Et ce que voulait le diable, eh bien, c'était que ses trois serviteurs, par peur de la fournaise ardente, eh bien, fassent comme tout le monde et qu'ils se prosternent devant la statue d'or. Il voulait qu'ils désobéissent au commandement de Dieu. Mais Anania, Michaël, Azaria, de leur nom juif, vont rester immobiles. Peut-être auraient-ils voulu être discrets, hein, essayer de se fondre, hein, mais voilà, être fidèles, eh bien, c'était s'attirer les regards. Par exemple, si vous n'avez pas Internet aujourd'hui, si vous n'avez pas un téléphone portable, si vous n'avez pas la télévision, ben on vous regarde bizarre, quoi. Hein. Qu'est-ce qui se passe, hein? Il y a un problème. Il y a un problème. Tout le monde a ça. Tout le monde utilise ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, si les jeunes n'ont pas leur petit ou leur grand tatouage, ben il leur manque quelque chose. Ils n'ont pas la marque actuelle, la marque du monde. Il faut ce petit tatouage-là. Hein? Il faut se fondre. Hein? Et c'est valable pour les femmes, les hommes, pour tout le monde. Il y a un mot qui revient sans cesse, c'est tendance. Est-ce que c'est tendance? Ah oui, c'est tendance. Bah, tout va bien. Alors, voilà. On part, hein, c'est tendance. Et il y a des tendances pour tout. Est-ce que vous êtes tendance? Il y a même tendance pour la nourriture. Vous êtes tendance. Hein? Vous devinez à quoi je fais référence. Je lisais un article qui parlait justement de ce mot tendance, hein, et qui concluait en disant, donc c'est le monde qui dit ça, hein, à moins de vous couper du monde, vous ne pouvez pas l'éviter. Voilà. Inévitable, c'est comme une vague implacable, hein, qui vous prend. Hein. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alors si beaucoup de choses ne sont pas mauvaises en soi, c'est vrai, hein, C'est ni bien ni mal, hein. Ça dépend de l'usage qu'on en fait. Il y a des choses qui ne sont pas mauvaises. Il y a d'autres choses où c'est clairement Dieu qui nous dit « Non, je ne veux pas ça. » Hein, c'est écrit noir sur blanc. Et quand parfois la Bible n'en parle pas, parce que la Bible eh bien, ne parle pas de tous les sujets, hein, et surtout des choses qui sont maintenant actuelles, qui sont nouvelles, on a quand même l'Esprit. Et l'Esprit qui nous dit « Non, ça je ne le veux pas. » Parfois, « Je ne le veux pas pour toi. » Oui, mais l'autre là, mais moi je parle de toi là. « Je ne le veux pas pour toi. » Et c'est quelque chose. La vague va par là, mais Dieu veut que vous alliez par là. Direction opposée. Alors on se dit sûrement, ce n'est pas facile. Mais Dieu n'a jamais dit que ça serait facile. Et ce n'était pas facile pour ces trois amis juifs. Hein. Jésus a dit également, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors le monde de l'époque était idolâtre. Des statues, il y en avait partout, hein, plein Babylone. Et tout le monde se prosternait devant les statues. C'était normal. Et ce qui était anormal, ben, c'était justement d'adorer un Dieu unique, un Dieu qu'on ne représente pas, un Dieu qu'on ne voit pas avec ses yeux, un Dieu que l'on adore par l'esprit. Ça, c'était anormal. C'était marcher à contre-courant. Alors aujourd'hui, le monde, on peut dire, il marche dans un militantisme évolutionniste. Et c'est le fait de croire encore en Jésus-Christ qui est une marche à contre-courant. Comment ? Tu crois encore en Jésus ? T'as encore ce mot, ce nom dans la bouche ? La vague ne va pas dans ce sens-là. Alors, eh bien, on va rapporter à Nebuchadnezzar qu'il y a des Juifs qui ne se prosternent pas devant la statue, qui ne servent pas ces dieux. On va les présenter devant le roi et regardez ce que Nebuchadnezzar va dire. Versets 14 et 15. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit « Est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Et il y a quelque chose qui est frappant chez l'homme, c'est qu'il est atteint d'une amnésie chronique. Alors c'est vrai que certains ont beaucoup plus de mémoire que d'autres, hein. Mais en ce qui concerne Dieu, on peut dire qu'il y a une amnésie générale. On est tous concernés. Nebuchadnezzar vient d'avoir une révélation de Dieu quelque temps avant, pas très longtemps avant, mais il ne s'en souvient plus, il a complètement oublié la leçon. Et l'homme a un vrai problème de mémoire. C'est pour ça que Dieu veut qu'on lise jour après jour, qu'on entende dimanche après dimanche et encore, et toujours la même chose. On oublie les bienfaits que Dieu nous prodigue. C'est incroyable comment on oublie les exaucements du passé. C'est pour ça que le cantique dit « Compte les bienfaits de Dieu ». C'est bien de prendre une feuille et puis de se souvenir. Voilà. Oh, Dieu a fait ça. Et Dieu a fait ça. Oh, merci Seigneur, tu as fait ça aussi. Se souvenir de sa fidélité. Parfois, souvent, on oublie sa miséricorde. On oublie toutes les fois où on a fait un faux pas, où on a failli faire un faux pas et sa main bienveillante nous a retenus par le bras pour nous empêcher de faire ce qui était mal. On oublie ses délivrances, toutes les fois où on a crié vers lui et Dieu a répondu et il nous a tendu la main. On oublie aussi ses châtiments du passé. La Bible dit « Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie ». Il ne faut pas oublier aussi les chemins par lesquels Dieu nous a fait passer. Et Nebuchadnezzar a tout oublié. Alors cette histoire de la fournaise, c'est une histoire connue. Si vous avez des années de vie chrétienne, peut-être que vous l'avez même déjà entendue la première fois à l'école du dimanche. C'est une des histoires qu'on raconte aux enfants. Et les histoires de la Bible, on s'en souvient. On se souvient, on l'entend une fois, on l'entend deux fois, on se souvient de toutes les histoires de la Bible. Mais par contre, on ne se souvient pas forcément des leçons des histoires. Et c'est pour ça que Dieu veut qu'on les entende et qu'on les réentende, parce que l'histoire, elle est gravée. Mais la leçon, on a une tendance à l'oublier. On l'oublie à chaque fois. Et si on l'oublie, ben c'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui s'oppose justement au bon, au vrai, au juste, au sage, à ce qui vient de Dieu. C'est le son qui nous aide à vivre pour Dieu. La chair, le monde, le diable, tout ça contrarie hein, ce qui vient de Dieu et nous empêche de nous souvenir. Alors, eh bien, il faut réentendre, réentendre. Versets 16 et 17. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar : Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alors pourquoi, disent-ils, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus, puisqu'il semble donner une réponse quand même juste après. Mais la question du roi était, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Et s'ils répondent qu'ils n'ont pas besoin de lui répondre, c'est qu'ils ne savent pas ce que Dieu va faire. Ils ne savent pas l'avenir. L'avenir appartient à Dieu. Parfois, on croit savoir l'avenir. On se dit, parce qu'on a un peu de vie chrétienne, un peu d'expérience, on se dit, ça va se passer comme ça, et puis et Dieu va faire ça, et puis c'est complètement différent. Qui peut savoir? Dieu l'a dit, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et on ne sait jamais ce que Dieu va faire. Alors on présume, on imagine, parfois on espère hein, quand on se sent vraiment concerné. Mais finalement, le dernier mot, ça appartient à l'Éternel. Et Dieu fait ce qu'il veut. Néanmoins, ces trois serviteurs vont dire, « Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise et il nous délivrera de ta main au roi. » Et c'est important d'être toujours positif dans nos épreuves. Dieu peut, c'est la première chose. La foi, elle est sûre que Dieu peut intervenir. Ça veut dire il en a la puissance, hein, il en a l'autorité. Ils étaient convaincus, Dieu pouvait faire quelque chose pour eux. Et si on a goûté combien Dieu est bon, comme dit la Bible, hein, si on a une connaissance de l'Éternel, alors, eh bien, on sait que Dieu peut. On sait qu'il est puissant, il peut faire l'impossible devant nos yeux s'il en a envie. Mais croire que Dieu peut le faire, ça ne suffit pas. Il faut quelque chose de plus. Il faut aussi croire qu'il va le faire. Et c'est ce qu'il nous montre ici. C'est pourquoi ils vont dire, « Il nous délivrera de ta main, ô roi. » Il va le faire. Et ici, il y a un aspect de témérité, d'audace, hein. Dieu peut, Dieu va le faire. Il s'avance ici avec hardiesse. Et on voit que c'est cette foi-là qui plaît au Seigneur. Une foi qui le met hein, devant quelque chose d'impossible. Qui peut échapper au roi de Babylone? Ils sont au milieu d'une foule acquise à la cause du roi. Ils sont entourés d'ennemis. Dieu peut nous délivrer, même si c'est impossible. Dieu peut nous délivrer. Et Dieu va nous délivrer, je le crois. L'impossible ne fait pas peur à celui qui a foi, car rien n'est impossible à Dieu. Néanmoins, on voit dans ce passage que la foi ne doit pas non plus tenter Dieu. La foi, elle s'exprime, mais elle laisse aussi la possibilité à Dieu de faire ce qu'il veut. Je le crois, oui, je sais qu'il peut, Je le dis, mais Seigneur, hein, c'est toi qui es souverain. C'est toi qui es souverain. Je crois que Dieu va le faire, mais si Dieu décide de ne pas le faire, ça ne changera rien à ma foi en lui, à ma confiance en lui. C'est pourquoi il dit, hein, sinon sache au roi, sinon, si Dieu en décide autrement, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Et c'est vrai que personne ne peut imposer à Dieu d'agir. Hein. Parfois, on voit une foi qui nous semble très, très audacieuse, mais qui impose à Dieu. Mais Dieu est libre. Dieu est libre. Tout en sachant que Dieu honore souvent la foi, il rémunère la foi, dit la Bible. Alors, si on manifeste cette foi qui plaît à Dieu, bien, Dieu peut exaucer, rémunérer. Mais si sa volonté est différente, ça ne change rien à nos devoirs. On ne connaît pas la volonté de Dieu, mais par contre, on connaît nos devoirs vis-à-vis de lui. Et le devoir de ces Juifs, c'était d'obéir à la parole de Dieu, d'obéir aux commandements qu'ils connaissaient. C'était de faire ce que Dieu leur disait. Et pour nous, ben, notre devoir, eh bien, c'est d'être fidèles, hein, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, obéissant, cherchant à lui plaire. Hein. Même si ça coûte, parce qu'on est à contre-courant. Alors, que va-t-il se passer ? Nebuchadnezzar n'est pas content. Il est furieux. Alors, il fait chauffer la fournaise 7 fois plus que la normale. Il va faire lier et jeter Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise. Et là, on a une illustration de la réaction du monde lorsqu'on veut lui rester fidèle. Ça ne plaît pas au monde. Alors, on pourrait dire, mais surtout quand on regarde le passé, aujourd'hui en France, que craint-on ? On craint du mépris, on craint de la moquerie, des insultes. C'est vrai qu'on peut parfois nous mettre un peu des bâtons dans les roues, hein, au niveau de voilà, le travail ou l'administration, ou je ne sais pas, des choses comme ça. Mais que craint-on quand on regarde le passé ? Et même en France, si on regarde dans le passé, on voit des liens, on voit du rejet, on voit des bûchers qui ont été élevés. Et on n'a pas besoin de faire beaucoup de kilomètres, hein, simplement Aigues-Mortes, la tour de Constance, Marie Durand. Elle entre à 18 ans. 18 ans, enfermée dans cette tour. Pourquoi ? Parce qu'elle ne veut pas abjurer sa foi protestante, sa foi évangélique, sa foi au vrai Dieu. On ne lui demande pas grand-chose. Un petit mot, du bout des lèvres, une petite signature. Dire, voilà, j'abjure, je rejette ma foi. Et je suis le monde de l'époque qui était bien très catholique. Hein, et voilà, vers l'idolâtrie, très axée vers l'idolâtrie. Elle était libre. Mais elle résiste. Et elle écrit dans la pierre, résister. Résister, et on peut encore la lire aujourd'hui à Aigues-Mortes. Si vous êtes en vacances ici, allez à Aigues-Mortes, c'est pas très loin, hein, c'est 2 heures d'ici, après Montpellier à droite, là, et visiter cette tour, c'est très, très intéressant. Elle va sortir 38 ans plus tard. 38 ans. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Qu'est-ce que nous connaissons, nous ? Quelle persécution connaissons-nous ? Ça nous encourage à être fidèles, à accepter, même si nos souffrances, elles sont minimes à côté de ce qu'ont vécu nos frères et sœurs du passé. Donc ces 3 hommes sont liés, ils sont jetés dans le feu, un feu si brûlant que même les soldats qui les jettent périssent. Versets 25 et 26, « Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, il se leva précipitamment. » Parce qu'il y a un coup de théâtre, on pourrait dire. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent certainement au roi. Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Et c'est là où on voit que Dieu n'est pas limité. Et il y a ici un vrai miracle, quelque chose d'impossible. Et qu'est-ce que c'est un miracle ? En fait, c'est quand Dieu fait le contraire des lois qu'il a établies. Il a établi des lois de la physique, c'est toujours la même chose, c'est toujours comme ça. Mais il peut contrarier ses propres lois s'il le veut. Et là, il contrarie ses lois, le feu ne leur fait aucun mal. Donc, ils sont protégés. Et cette fournaise représente bien sûr l'épreuve. Une fournaise, c'est quelque chose qui fait souffrir. C'est quelque chose, on ne veut pas être dedans. On veut s'en extirper, surtout s'éloigner de ça. C'est quelque chose que l'on craint. Mais la Bible dit, la fournaise, c'est là aussi où on affine l'or. Et il est certain que Dieu permet des fournaises dans nos vies pour nous affiner, pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour brûler toutes les impuretés de nos vies. C'est aussi dans la fournaise que bien le métal devient malléable. Et c'est dans la fournaise aussi que nous, chrétiens, eh bien, on devient plus malléable entre les mains de Dieu. On est moins rebelle, on est moins... Voilà, on raidit moins le cou, on se courbe, on accepte, on est épuré. Mais ce qui est merveilleux ici, nous voyons, c'est que dans la fournaise, nous ne sommes jamais seuls. Et il y a cette parole qui revient, « Ne crains rien, je suis avec toi. » Sans cesse, « Ne crains rien, je suis avec toi. » Et ce quatrième homme, au visage lumineux, un visage divin qui fait dire au roi, il y a la figure d'un fils des dieux. C'est bien sûr Jésus-Christ, hein. C'est notre Emmanuel, Dieu avec nous. Dans le psaume 50, verset 15, nous lisons « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Et Dieu peut délivrer quiconque l'invoque. C'est sa joie, c'est son bonheur, c'est son plaisir de répondre à la prière de celui qui l'invoque. On m'a raconté récemment qu'une sœur était mariée avec un mari très violent. Et je n'ai pas connu cette sœur, mais j'imagine les prières « Au secours, Seigneur, libère-moi, secours-moi » et le mari est décédé. Un autre homme qui connaissait ce premier mari a commencé à vouloir draguer cette veuve, mais avec insistance, d'une manière qui n'était pas convenable. Et ce monsieur, à son travail, une palette est tombée sur lui, il est mort. Incroyable. Et on voit que Dieu, il agit encore, comme dans les actes des apôtres, hein, on voit des choses. Dieu fait ce qu'il veut, il fait comme il veut, il délivre s'il en a envie, et comme il en a envie, il entend la prière de ses enfants. Il emploie parfois des moyens inattendus, des choses qu'on ne soupçonne pas. Il n'agit pas toujours de la même manière. Souvent, c'est différent d'une personne à une autre, mais il agit. Et ce qui est certain, c'est qu'il est avec son enfant dans la fournaise. Il ne l'abandonne pas. Il est toujours avec lui. Et peut-être que nous ne le voyons pas tout de suite, mais c'est aussi dans la fournaise que nous sommes délivrés des liens. Ici, là, nous voyons nos trois amis qui étaient dans le feu et soudain, ils sont délivrés des liens. Ils n'avaient plus de liens. Ils étaient libres. Libres parce que dans l'obéissance, libres parce que dans la dépendance, libres dans la fidélité à Dieu. Et parfois, la vraie liberté, eh bien, elle passe par l'épreuve. Et c'est dans le feu, c'est dans l'épreuve que c'est dur, il y a de la souffrance, mais on respire, on est libre. Libre en Jésus-Christ. C'est alors que Nebuchadnezzar va dire, verset 26, « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Littéralement, serviteur du Dieu suprême, c'est le Dieu très haut. C'est le Dieu le plus haut. C'est celui qui est vraiment, il domine, il règne. Donc ici,
C'est la deuxième fois que Nebuchadnezzar, eh bien, c'est une révélation de Dieu. Et là, de nouveau, hein, il dit, oh, c'est le Dieu très haut. Mais que va-t-il se passer? Est-ce que de nouveau, il va être atteint d'amnésie? Et de nouveau, il va oublier? Nous, il faut qu'on s'efforce de ne pas oublier, de se rappeler. C'est aussi pour ça que nous venons à l'Église. Verset 27. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, que l'odeur du feu ne les avait même pas atteints ou ne les avait pas atteints. Et ça signifie que Dieu peut nous préserver complètement des conséquences ou des effets de l'épreuve qu'il permet dans nos vies. On peut avoir le sentiment que, voilà, on traverse l'épreuve et on se dit, mais plus rien ne sera comme avant. Ça ne sera jamais plus pareil. Mais ici, on voit Dieu restaure. Il restaure complètement ceux qui se confient en lui. Le feu n'eut aucun pouvoir sur eux. Il peut y avoir le feu de la maladie. Il peut y avoir le feu de la séparation, le feu du deuil, le feu de la pauvreté, le feu de la solitude, le feu du chômage, le feu de l'incompréhension, le feu de la persécution, ou bien d'autres feux encore. Mais Dieu peut faire en sorte que le feu n'a pas le pouvoir de nous brûler, même de nous détruire, de nous faire du mal. Même l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Rien. Ils sortent indemnes. Alors pourquoi? Comment est-ce possible? La réponse, ben c'est Nebuchadnezzar qui nous la donne. Il dit, verset 29, Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Dieu les a délivrés parce qu'ils eurent confiance en lui. Et on peut dire, c'est ici le mot de conclusion de ce chapitre, de cet épisode du livre de Daniel. Ils lui firent confiance. Tout est là. C'est la foi. Confiance. Ils étaient dans une situation qui semblait être complètement à leur désavantage. C'était le choix du feu, le choix de violer l'ordre du roi, le choix de livrer leur corps pour être brûlé, et c'est déraisonnable, c'est insensé, c'est terrible, mais on préfère rester fidèle. Et Dieu honore la fidélité. Ils ont fait confiance au Seigneur, et le résultat, délivrance. Ils sont délivrés. Et c'est un message d'espérance pour nous, qui lui sommes restés fidèles. Ou pour que nous lui restions fidèles. Même si c'est à notre désavantage, à vue humaine. On va s'incliner dans la prière.